l'espérant et, mon ami chrétien, allons-y un peu. Le chrétien, je n'en ferai rien. J'ai entendu dire beaucoup de choses sur ce lieu-là. On dit qu'un grand nombre de gens y ont péri. Les richesses sont des pièges pour ceux qui les recherchent. Elles sont un obstacle dans le voyage. Alors le chrétien cria à Déma, « Ce lieu n'est-il pas dangereux et n'a-t-il pas détourné plusieurs pèlerins de leur voyage ?» Déma, « Point du tout, sinon quelques étourdis en disant cela, ils rougissaient de honte ?» Le chrétien, frère espérant. « Croyez-moi, ne nous détournons pas d'un pas, mais suivons droitement notre sentier. » L'espérant, j'ose bien affirmer que si intérêt personnel passe par ici et qu'il soit sollicité comme nous, il ira voir ce qui en est. Le chrétien, cela ne serait pas surprenant et il ne ferait que suivre ses principes. Mais il y a toutes les probabilités qu'il y ferait une chute mortelle. Déma, mais, encore une fois, ne voulez-vous pas venir ici? Le chrétien, vous êtes, pour vous le dire franchement, un ennemi des voies du Seigneur, et vous avez déjà été jugé par un des juges de Sa Majesté à cause de votre révolte. Pourquoi tentez-vous de nous attirer dans la même condamnation? Ah! Si nous nous retirions des voies de notre roi, il le saurait bientôt, et nous confondrait en un moment. Nous voulons lui conserver nos cœurs libres et constants. Déma, je suis aussi de votre société, et si vous voulez seulement attendre un peu ici, jusqu'à ce que j'aie amassé quelques pièces de cette mine, j'irai avec vous. Le chrétien, quel est votre nom? Ne vous appelez-vous pas comme je viens de vous nommer? Déma, oui, mon nom est Déma. Je suis enfant d'Abraham. Le chrétien, vous êtes enfant de Judas et vous marchez sur ses traces. Vous père a été pendu comme un traître et vous n'avez pas mérité un moindre supplice. Soyez assurés que nous rapporterons tout fidèlement à notre roi lorsque nous serons en sa présence. C'est ainsi qu'ils passèrent leur chemin. Cependant, ils virent derrière eux intérêts personnels et ses compagnons qui, à la moindre œillade de Déma, s'en allèrent tout droit à lui. Je ne saurais dire s'ils trébuchèrent dans la fosse ou s'ils descendirent pour travailler à la mine ou enfin s'ils y furent étouffés par les vapeurs qui s'en élèvent continuellement, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils ne reparurent plus dans tout le reste du chemin. Tout ceci donna lieu aux chrétiens et à l'espérant de chanter ce cantique. Un jour l'exécrable Déma vint au-devant d'un homme peu fidèle, à peine paraît-il avec ses faux appâts que ce mal avisé court ou Déma l'appelle. Séduit par l'éclat des faux biens, il quitte Dieu pour des idoles vaines, et son âme se livre au funeste lien du tyran infernal qui l'accable de chaînes. Funeste exemple du courroux qu'exercera le monarque suprême sur ceux qui n'ont pas suivi Jésus, ce chef si doux, que pour des biens trompeurs et non pas pour lui-même. Or, nos pèlerins, ayant suivi leur route sans se détourner, arrivèrent dans un lieu où se trouvait un ancien monument, fort près du grand chemin, et qui leur causa à l'un et à l'autre une grande surprise. Il ressemblait à une femme changée en colonne. Les deux amis s'y arrêtèrent longtemps pour l'examiner de tous côtés, ne sachant ce que cela pouvait être. Enfin, l'espérant aperçut sur le front de cette espèce de statue une inscription en caractère fort antique et très usé. Comme il n'était pas lettré, il appela le chrétien, qui avait plus de connaissances que lui, pour essayer de déchiffrer cette inscription et d'en comprendre le sens. Celui-ci, après en avoir rassemblé les lettres, lui c'est Luc 17, 32, souvenez-vous de la femme de l'eau. Ce qui leur fit conclure que c'était là la statue de celle en laquelle cette femme fut changée lorsqu'elle se retourna du côté de Sodome, où elle y avait laissé son cœur. Genèse 19, 26, la femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de celle. Ce spectacle effrayant amena la conversation suivante. Le chrétien a « Mon frère, que ce spectacle nous est bien présenté à propos. après avoir été sollicité par des mâts à visiter le coteau du Gain, si nous étions allés comme vous y aviez du penchant, je crois bien que nous y aurions connu le même sort que cette femme pour servir d'exemple à ceux qui viendraient après nous. L'espérant, j'ai bien du regret d'avoir été si insensé, et je suis surpris moi-même de ce que je n'ai pas eu le même sort que cette femme, car quelle différence y a-t-il entre elle et moi ? Elle se retourna, et moi je désirais aller. Ah ! Que je ne puisse recourir à la grâce de Dieu, avec une profonde confusion, après avoir été capable de concevoir une telle pensée dans mon cœur. Le chrétien, remarquons bien ce que vous venez de voir, afin que cela nous serve pour l'avenir. Cette femme avait échappé à un grand malheur, et elle tomba dans un autre ? Elle n'avait point péri avec Sodome, mais elle périt par un autre accident. L'espérant, il est vrai, elle nous sert d'avertissement et d'exemple d'avertissement, afin que nous évitions de tomber dans le même péché, d'exemple, pour nous apprendre quelle condamnation nous avons à attendre si nous n'en profitons pas. C'est ainsi que Corée, Dathan et Abiram, avec les 250 hommes qui périrent avec eux, furent en avertissement et en exemple nombre 16. Mais je m'étonne d'une chose, comment Déma et ses compagnons peuvent-ils être si hardis que de rechercher ainsi les trésors de ce siècle, ayant devant les yeux, sans qu'ils puissent presque éviter de le voir, l'exemple de cette femme qui ne fit que de se tourner du côté de ses faux dieux ? Car nous ne lisons pas qu'elle eût encore fait un seul pas pour aller les chercher, et cependant elle a subi un jugement si sévère. Le chrétien, c'est en effet une chose bien surprenante et qui fait bien voir que ce sont des gens désespérément malins. Je ne sais à qui je pourrais mieux les comparer qu'à ces voleurs qui prennent la bourse des autres en la présence du juge et jusque sous le gibet. Il est dit des hommes de Sodome qu'ils étaient de grands pécheurs parce qu'ils avaient péché en la présence du Seigneur et nonobstant les bienfaits qu'il avait répandus sur eux car le pays de Sodome était comme un jardin délicieux. Genèse 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. C'est ce qui réveilla sa jalousie et qui attira sur eux le feu de sa colère. D'où l'on peut conclure avec une entière certitude que ceux qui pécheront de même à la vue et au mépris de tous les exemples, pareils à ceux qui leur sont mis continuellement devant les yeux, pour leur servir d'avertissement, n'auront à essuyer tôt ou tard les jugements les plus terribles. L'espérant, toutes ces choses sont la vérité même, il n'y a là-dessus aucun doute. Et quelle grâce que ni vous ni moi n'ayons servi d'un pareil exemple aux autres ? Cela doit bien nous engager à louer Dieu et à le craindre sans cesse, nous souvenant toujours de la femme de l'eau. Comme ils s'entretenaient ainsi, ils arrivèrent près d'un agréable ruisseau, que David appelle le ruisseau de Dieu. Psaume 65, 10 en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Et Jean, les vives fontaines des eaux. Apocalypse 7, 17 car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Comme leur chemin les conduisait tout droit le long des bords de ce ruisseau, ils marchaient avec un grand plaisir. Ils burent aussi de l'eau du ruisseau, qui les fortifia merveilleusement et ranima leurs esprits abattus. De l'autre côté du ruisseau, il y avait, assez près du bord, toutes sortes d'arbres verdoyants dont les feuilles sont propres à nourrir et à rafraîchir les voyageurs lorsque leur sang est échauffé par la fatigue. Elles sont bonnes dans tous les cas. Auprès du ruisseau, il y avait encore une prairie fort plaisante, semée de lys d'une beauté ravissante, et qui conservait leur verdure toute l'année. Ils s'y couchèrent et s'y endormirent, car ils pouvaient s'y reposer en toute sûreté. À leur réveil, ils amassèrent et mangèrent encore quelques fruits de ces arbres et burent de l'eau rafraîchissante du ruisseau. C'est ainsi que nos voyageurs se reposèrent et se délassèrent agréablement pendant plusieurs jours, chantant ensemble ce qui suit. Heureux séjour, charmante rive, source d'eau brillante et vive, arbre fécond, chargé de fruits dont les vertus restaurent l'âme languissante et dont l'efficace puissante ranime les sens abattus. Aimable lieu. Qui peut décrire les charmes quand vous en admire? Heureux qui peut jouir de vos divins traits. Heureux qui, fuyant tous les vices, dans ce paradis de délices, boivent les plaisirs à longs traits. Et quand ils furent prêts à continuer leur voyage, car ils ne l'avaient pas encore fini, ils mangèrent et burent encore avant de partir, après quoi ils quittèrent ce lieu délicieux. Chapitre 25. Le château du doute et le géant des espoirs. Il n'en était pas fort éloigné, lorsque le chemin commença à s'écarter un peu du ruisseau, ce qui les consterna beaucoup. Ils n'osèrent cependant pas sortir du chemin, quoiqu'il fût en cet endroit extrêmement dur et inégal, et que les plantes de leurs pieds fussent devenues fort tendres et délicates par la longueur du voyage. Mais leurs âmes, ennuyées du chemin, comme les Israélites, en désiraient un meilleur. Nombre 21, 5 et parla contre Dieu et contre Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Au côté gauche du chemin, ils aperçurent une prairie nommée des tours et une planche pour y passer. Là-dessus, le chrétien dit à son compagnon, « Si cette prairie ne nous détourne pas de notre chemin, passons-y. » En même temps, il passa la planche pour inspecter les lieux et il y trouva qu'en effet, il y avait un sentier le long du chemin. « Ah ! » s'écria-t-il, « voilà justement ce que je souhaitais, l'on peut marcher par ici très commodément. » « Venez, mon cher espérant, entrons dans ce chemin. » « Mais, dit l'espérant, si ce chemin nous détournait, que ferions-nous ? » ?»« Cela ne se peut, répondit le chrétien, voyez, ce sentier ne va-t-il pas tout du long de la route ?» Ainsi, l'espérant se laissa gagner par son compagnon et le suivit par-dessus la planche. Hélas ! Que de maux ils s'attirèrent par cette faute unique. D'abord, après avoir passé par cette planche, ils trouvèrent le terrain mou sous leurs pieds. Cependant, comme ils virent quelqu'un qui allait devant eux, nommé Vaine Confiance, ils l'appelèrent et lui demandèrent où ce chemin conduisait. Il répondit, « À la porte du ciel. » « Eh bien, dit le chrétien, vous voyez que je ne me suis point trompé et que ce chemin est bon. » En disant cela, ils continuèrent à suivre cet homme, qui les engagea dans un labyrinthe de maux d'où ils eurent mille peines de se retirer, car ils furent d'abord surpris par une nuit si obscure que le dernier ne pouvait plus voir celui qui marchait devant lui. Le ciel se couvrait d'épais nuages. Or, parce que Vaine Confiance ne voyait lui-même le chemin devant ses pieds, il tomba dans une fosse profonde qui avait été creusée par le prince du pays pour y précipiter les hommes vains et orgueilleux, et il se brisa les os. Les deux voyageurs furent vivement étonnés lorsqu'ils eurent ouï le bruit qu'il fit en tombant. Mais leur frayeur redoubla quand, après avoir demandé à haute voix ce que c'était, ils n'entendirent pour toute réponse que quelques soupirs d'un agonisant et qu'en même temps la pluie, les tonnerres et des éclairs épouvantables commencèrent à gronder de toutes parts. Alors l'espérant dit à son compagnon, « Eh, où en sommes-nous, mon pauvre ami ?» Le chrétien, qui avait le cœur outré de douleur, pour s'être ainsi malheureusement égaré, ne répondit rien dans un premier temps, mais il donnait assez à connaître les tristes pensées qui remplissaient son âme par les soupirs et les gémissements qu'il poussait de temps à autre. « Ah ! Disait-il, que n'ai-je suivi mon chemin ? Qui aurait cru que ce sentier nous eût ainsi écartés de la bonne route ?» L'espérant, c'est ce que je craignais dès le commencement. J'ai pensé vous en avertir discrètement. Il est vrai que j'aurais dû parler d'une manière plus forte, mais je respectais votre âge, car vous êtes mon aîné. Le chrétien, mon cher frère, ne vous impatientez pas ? J'avoue avec confusion que je suis la cause de tout le malheur qui nous arrive. Je ne saurais vous exprimer la douleur qui me pénètre et les regrets que j'éprouve que vous avoir exposé à un si grand danger. Je vous prie, mon frère, pardonnez-moi, je ne l'ai pas fait dans une mauvaise intention. L'espérant, que dites-vous là, mon frère ? Je vous pardonne de tout mon cœur. Prenez seulement courage, j'espère que tout ceci contribuera à notre bien. Le chrétien, quelle consolation dans mon malheur et quel bonheur pour moi d'avoir rencontré un ami si doux et si charitable. Mais, sans nous arrêter ici, rebroussons chemin à l'instant. L'espérant, permettez que je passe devant vous. Le chrétien, non, s'il vous plaît. C'est moi qui dois passer le premier, afin que, s'il y a quelque péril à craindre, j'y sois le premier exposé, puisque c'est moi qui vous ai fait fourvoyer. L'espérant, non, vous ne le ferez pas, car votre esprit étant agité comme il l'est, vous pourriez encore manquer le chemin. En même temps, ils entendirent une voix d'exhortation qui leur dit « Jérémie 31, 21 dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi, reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. » Ils prirent donc la résolution de retourner en arrière. Mais il faisait si obscur et la pluie était tellement forte qu'ils furent plusieurs en danger de périr. Ils ne purent pas même de toute la nuit, quelque diligence qu'ils fissent, retrouver la planche sur laquelle ils avaient passé, de sorte qu'ils furent obligés de se mettre à l'abri dans une petite caverne où ils s'assirent jusqu'à ce que le jour commençât à paraître et, parce qu'ils étaient fatigués, ils s'endormirent. Ces pauvres voyageurs éprouvèrent alors qu'il était bien plus aisé de sortir du chemin quand on n'y est que d'y entrer lorsqu'on en est une fois sorti. À quelque distance de cette caverne, il y avait un château, nommé le Doute, occupé par un géant nommé Désespoir, qui s'est enlevé de bon matin et se promenant dans la campagne, trouva le chrétien et l'espérant dormant sur ses terres. Il leur cria avec fureur et d'un ton menaçant qu'ils eussent à s'éveiller. Ensuite, il leur demande à qui ils étaient et ce qu'ils faisaient sur ces terres. « Nous sommes, dirent-ils, des voyageurs qui ont manqué le chemin. » Mais d'où vient, leur dit-il brusquement, que vous avez eu l'audace de vous coucher sur mes terres? Suivez-moi sans délai, et vous saurez à qui vous avez affaire. Ils n'osèrent refuser, car, outre que le sentiment de leur faute les rendait timides, ils craignaient de l'irriter davantage parce qu'il était beaucoup plus fort qu'eux. Après les avoir ainsi traînés dans son château, il les jeta dans un cachot obscur et puant, où ils furent enfermés depuis le mercredi matin jusqu'au samedi soir. Il est aisé de juger ce que leur condition avait de lamentable, car, enfin, les voilà destitués de toute espérance, privés de tout secours humain, sans parents, sans amis, tyrannisés par le désespoir, dans des ténèbres affreuses, n'ayant pas même un seul morceau de pain, ni une petite goutte d'eau, pour apaiser la faim et la soif qui les tourmentaient, de sorte qu'ils ne voyaient que les affreuses images de la mort qui se présentait à eux de toutes parts. Mais ce qui faisait surtout le supplice du chrétien, c'était d'avoir causé, par ses avis imprudents, le malheur de son fidèle ami. Chapitre 26. Continuation, heureuse délivrance. Le géant désespoir, étant seul avec sa femme l'incrédulité, il lui raconta comment il avait jeté deux prisonniers dans le cachot pour les avoir trouvés sur ses terres et lui demanda ce qu'elle trouverait le plus à propos de faire d'eau. Elle s'enquit de lui de quel genre c'était. Il lui récita le tout, et là-dessus elle lui conseilla de les battre le lendemain matin, sans aucune miséricorde. Le géant ne fut pas plus tôt levé qu'il se mit en état d'exécuter le conseil que sa femme lui avait donné. Pour cet effet, il se saisit d'un énorme bâton, et s'étant jeté sur eux, avec une fureur inexprimable, quoiqu'ils ne lui disent pas une mauvaise parole, il les battit si rudement qu'ils demeurèrent par terre, sans pouvoir se relever. Après quoi il s'en alla et les laissa sur le carreau, où ils eurent tout le temps de déplorer leur malheur. Pendant que les deux pauvres pèlerins s'abandonnaient à des regrets et à des soupirs continuels dans leur cachot ténébreux, le géant désespoir ne pensait qu'au moyen de les faire périr, c'est de quoi il s'entretint encore la nuit suivante avec sa femme l'incrédulité qui, ayant appris qu'ils étaient encore en vie, lui conseilla de les faire mourir. Ainsi, dès l'aube du jour, il se rendit auprès d'eux et les sollicita fortement de se donner la mort. Mais comme il balançait à suivre des suggestions, il se jeta de rechef, sur eux avec fureur, et aurait infailliblement achevé de les tuer et, s'il n'avait été surpris lui-même d'une maladie à laquelle il est sujet, lorsqu'il aperçoit les rayons et l'impression du soleil. ils furent d'état de se servir de ses mains pendant ce temps-là. Ainsi, il les laissa dans leur état actuel et se retira en méditant sur ce qu'il aurait à faire ultérieurement. Cependant, les prisonniers se consultaient de leur côté sur le parti qui leur serait le plus avantageux. « Que ferons-nous, mon frère ?» dit le chrétien. « Que notre sort est à plaindre et notre vie misérable. Quant à moi, je ne sais ce qui me serait le meilleur, ou de traîner une vie aussi triste, ou de mourir sur le champ. Je préférerais mourir de la plus cruelle mort, Job 7, 15, et le sépulcre me serait plus agréable que cette fosse. Quoi ? Faut-il que nous nous laissions ainsi tyranniser par ce géant ? L'espérant, j'avoue que notre état présent est fort déplorable, et la mort me serait aussi plus douce que la vie. Mais souvenons-nous que le Seigneur, vers qui nous tendons, nous a dit « tu ne tueras point ». Que si nous ne devons point tuer les autres, beaucoup moins devons-nous être les meurtriers de nous-mêmes, puisque celui qui tue son prochain ne détruit que son corps, mais celui qui se tue lui-même détruit son corps et son âme. Vous parlez de trouver dans la mort la délivrance de vos maux, mais avez-vous oublié l'enfer, mon frère, où les meurtriers sont infailliblement précipités ? Car les meurtriers n'hériteront point le royaume des cieux. Souvenons-nous aussi que le géant des espoirs n'a pas tout puissance en main et j'ai ouï dire que plusieurs qui, comme nous, avaient été pris sur ces terres, étaient cependant heureusement échappés. Qui sait si Dieu, le maître de la vie et de la mort, ne fera pas mourir le géant des espoirs lui-même ? Ou ne pourrait-il pas arriver qu'il oubliât une fois de fermer le château ? Ou qu'il fût encore violemment surpris de cette maladie, qui lui ôte tout l'usage de ses membres ? Quoi qu'il arrive, je suis résolu de prendre courage et d'attendre la dernière extrémité ou de tenter si nous ne pourrions point nous échapper de ses mains. J'ai été mal avisé de ne pas l'avoir tenté plus tôt. Cependant, mon frère, ayons patience et ne perdons pas courage dans nos maux. Qui sait si nous ne sommes pas à la veille d'obtenir une heureuse délivrance ? Prenons seulement garde de ne pas être les meurtriers de nous-mêmes. Ces paroles rendirent un peu de courage aux chrétiens, de sorte que le géant, étant revenu sur le soir dans la fosse, pour voir si les prisonniers avaient suivi son conseil, fut extrêmement surpris de les voir plus dispos et plus heureux qu'auparavant. C'est alors que, les regardant de travers, il leur dit d'un ton menaçant qu'il se repentirait de ne pas avoir suivi son conseil et qu'il leur arriverait tant de maux qu'ils maudiraient le jour de leur naissance.